France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Comme chaque semaine, le vendredi, c'est une émission en deux parties. Dans le retour de terrain, la journaliste Karina Chabour nous parlera de son enquête pour France 24 sur les stratégies d'influence turque dans plusieurs pays africains. Et puis dans la table ronde d'actualité, cette question ce matin, les Européens peuvent-ils protéger l'Ukraine sans les États-Unis? Nous en discuterons avec nos invités, David Cadier, qui est docteur en sciences politiques, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, et Joseph Henrotin, qui nous rejoindra en seconde partie, directeur de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux, le Capri et rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité Internationale. Une discussion co-animée comme chaque vendredi avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Karina Chabour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France 24 et votre dernière enquête, le drone et le Coran, nous plonge au cœur des réseaux d'influence de la Turquie sur le continent africain. Commerce, accords de coopération, vente d'armes, missions humanitaires et religieuses, bourses d'études, les partenariats se déclinent dans tous les domaines, et ce, tandis que le président Erdogan soigne ses relations avec les dirigeants africains à grand renfort de sommets et de tournées diplomatiques, un rapprochement construit patiemment depuis une vingtaine d'années qui fait aujourd'hui de la Turquie le quatrième fournisseur d'armes du continent et un important partenaire commercial, comme par exemple au Sénégal.
C'est lui qui va nous accompagner pour la visite.
D'accord. Actuellement, on est à 71 personnels au total. Parmi ces 71-là, seulement les 11 sont des Turcs et le reste sont des Sénégalais, ce qui vraiment montre le savoir-faire turc et l'expertise sénégalaise qui sont vraiment combinés d'une manière parfaite actuellement.
C'est vraiment une fierté de travailler avec les Sénégalais.
Le jeune homme qu'on entendait à l'instant s'appelle Mansour. Il est aujourd'hui adjoint au directeur de cette entreprise turque. Lui est sénégalais. Nous sommes donc dans une usine de fabrication de meubles implantée au Sénégal. Est-ce qu'il y a beaucoup d'usines de ce genre en partenariat turco-sénégalais au Sénégal aujourd'hui, Karina Chabour?
Alors, celle-ci, c'est vraiment la première. C'est vraiment l'emblème de ce partenariat turco-sénégalais, puisque ce sont des matières premières qui viennent de Turquie, qui sont... Les meubles sont fabriqués par du personnel essentiellement sénégalais. Et Mansour aussi incarne bien ce partenariat turco-sénégalais, puisque Mansour, il a fait ses études en Turquie. Il a été presque recruté, d'une certaine façon, quand il était dans une école coranique à Thiès. Et des Turcs lui ont proposé une bourse pour aller étudier dans un lycée imam Hatip. Vous savez, ce sont ces lycées d'imams qu'il y a en Turquie, comme celui où a étudié le président Erdogan. Et ensuite, il a poursuivi ses études supérieures là-bas, en relations internationales. Il n'a pas voulu faire d'études religieuses. Et il souhaitait pouvoir rester en Turquie, mais la situation économique s'est compliquée au moment du Covid. Il n'avait plus de papiers. Il est rentré au Sénégal et là, l'ambassadrice l'a appelé en lui disant « Est-ce que ça t'intéresserait de participer à la création d'une entreprise ?» C'est un groupe turc qui s'appelle Don Alar. Voilà, et on a besoin d'une personne, un peu ton profil, c'est-à-dire typiquement qui parle Wolof, qui parle français et qui parle turc. Parce que souvent, quand ces Turcs arrivent en Afrique, ils ne parlent pas nécessairement la langue locale et ils ont besoin de s'appuyer sur des locaux qui connaissent les deux cultures et qui servent de lien. Et résultat, Mansour, en fait, il fait quasiment tout dans cette entreprise et dans les différents magasins de ce groupe à Dakar et ailleurs au Sénégal.
Vous évoquez un appel de l'ambassadrice turque à Dakar. Justement, cette entreprise, elle avait été inaugurée par l'ancien président de l'époque, Macky Sall, et par l'ambassadrice turque. Quel est l'enjeu diplomatique lié à ces ouvertures d'usines ?
Ah, mais c'est, là, c'est clairement d'afficher, vous savez, ce partenariat dit gagnant-gagnant entre la Turquie et l'Afrique, le Sénégal en l'occurrence. On la voit beaucoup, l'ambassadrice, à des inaugurations d'usines, d'un salon commercial également à Dakar. Salon dans une enceinte qui est construite par des Turcs et dans lesquelles la plupart des exposants sont turcs. Donc, effectivement, l'ambassadrice est de tous ces grands rendez-vous économiques, culturels ou autres de la Turquie, hein, ce qui est normal. Mais disons que sa personnalité est assez intéressante. Vous l'avez probablement entendu, elle est parfaitement francophone. Elle a fait ses études au lycée français à Ankara. On l'appelle Mama Africa parce qu'elle connaît très bien l'Afrique. Elle a été en poste avant le Sénégal, elle a été en poste au Gabon, en Guinée. Elle a également été conseillère des affaires pour l'Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères turc à Ankara. Elle a organisé le dernier sommet Afrique-Turquie à Ankara. Donc elle est vraiment un personnage clé de cette politique africaine voulue par Erdogan depuis maintenant une bonne vingtaine d'années.
Qui se déploie sur tout le continent. Mais là, on est au Sénégal. C'est là qu'est en poste cette ambassadrice, cette figure clé du lien entre le continent africain et la Turquie. Pourquoi le Sénégal ? Qu'est-ce que représente aujourd'hui ce pays dans la stratégie turque africaine ?
Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on pense Turquie en Afrique, on pense plus à l'Afrique de l'Est. Ils ont commencé par notamment la Somalie, au moment où plus personne n'allait en Somalie. Aujourd'hui, la Turquie contrôle les infrastructures clés en Somalie. On pense au port, à l'aéroport, mais aussi ils disposent d'une base militaire là-bas. Et c'était plus leur zone d'influence, l'Afrique de l'Est, ou disons aussi le Maghreb ou le nord de l'Afrique, ce qui correspondait peu ou prou à l'ancien empire ottoman. L'Afrique de l'Ouest, c'est plus récent, et le Sénégal, c'est plus récent. Et le Sénégal, c'est très important pour eux, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, parce que c'est un pays stable. Dans une zone assez instable. C'est un pays qui peut servir, enfin c'est un marché dynamique et qui peut servir de porte d'entrée pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça qu'ils le présentent en tout cas.
La porte d'entrée, elle se joue notamment sur des questions commerciales. Et là, vous rencontrez une autre personne qui fait ce lien entre les Sénégalais et les Turcs. C'est un avocat d'affaires. Il s'appelle Ahmet Oguzhan. Et puis, vous le filmez en train de passer des appels entre ses partenaires à Istanbul, à Dakar. Il essaie de favoriser des connexions, justement. En quoi consiste précisément son rôle, son travail et au service de qui ? Est-ce que c'est exclusivement du business ou ce qui a aussi des dimensions politiques.
Effectivement, c'est un personnage intéressant qui est lui surnommé l'avocat des Africains. C'est un avocat d'affaires, effectivement, qui a pour clients des businessmen africains, mais aussi beaucoup d'entreprises turques. En fait, lui, son rôle, c'est vraiment d'aider les entreprises turques à s'implanter sur le continent, alors au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays africains. Donc, il est très présent, notamment au moment des grandes foires commerciales. Vous savez, les Turcs, ils aiment beaucoup ce genre d'événements. Donc, lui, il va aider des entreprises turques à participer à ces foires commerciales. D'ailleurs, parmi ses clients, il y a aussi l'organisateur turc de ces foires commerciales, de cette foire de Dakar, mais qui a aussi lieu à Abidjan ou ailleurs en Afrique. Il va faire en sorte de sécuriser juridiquement leur stand, leur partenaires sur place, leur aider à trouver des locaux s'ils veulent s'installer, à trouver du personnel local. Donc il est vraiment au cœur de cet affairisme, en tout cas de cette offensive commerciale des Turcs. Il est, on l'a vu, polyglotte. Il parle français, il parle anglais, il est tout le temps effectivement au téléphone. Et puis il y a une forme de prosélytisme aussi. On voit qu'il est jeune, très dynamique, très présent sur les réseaux sociaux. Il met beaucoup en scène sa présence en Afrique. Il met beaucoup ses photos avec des dirigeants africains sur son compte LinkedIn notamment. Il écrit beaucoup d'informations sur les pays dans lesquels il travaille en Afrique, des informations de type économique, mais aussi beaucoup de conseils pour travailler en Afrique. Par exemple, l'importance des relations personnelles, qu'il faut être patient en Afrique. Il met beaucoup ça en avant. Il y a beaucoup cette carte. Et puis autre chose qu'il m'a dit, c'est par exemple pour le Sénégal. Pourquoi le Sénégal ? Parce que c'est un pays musulman. Et c'est très important. Ça facilite, me dit-il, les connexions. On est frères. D'ailleurs, il appelle un peu toutes les personnes mon frère. Comment ça va ? Et ça, non seulement c'est une culture en commun, mais on le voit très vite aussi. Ça facilite les affaires.
Cette fraternité culturelle, religieuse, on voit à quel point elle est mobilisée dans les discours jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le président Erdogan a plusieurs fois expliqué que la présence turque en Afrique relevait d'une relation confraternelle. À qui ce récit-là, ce discours-là, est-il vraiment destiné ?
Je pense qu'effectivement, c'est un discours qui marche bien, en tout cas au Sénégal, dans la mesure où le pays, aujourd'hui, se cherche de nouveaux partenaires, veut vraiment jouer la carte de multiplier les partenaires. Et il le fait assez... Et du coup, la Turquie et ce discours à destination des pays du Sud, de défenseurs des intérêts du pays du Sud, notamment au sein du Conseil de sécurité. Il y a aussi cet aspect de discours de protection des musulmans. Tout ça, eh bien, c'est un discours qui passe très très bien au Sénégal.
Et qui va aussi en parallèle avec un discours beaucoup plus offensif sur la France en tant qu'ancienne puissance coloniale. Il y a vraiment cette idée de s'inscrire dans quelque chose de radicalement différent. Et en même temps, vous rappelez aussi dans votre reportage que la Turquie a aussi un passé. Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier colonial. Vous voyez plusieurs personnes qui
me le disent. Qui, voilà. Beaucoup de chercheurs me le disent, effectivement.
En Afrique.
Mais alors, deux choses, effectivement, sur la crise. Critique de l'Occident et notamment la critique du passé colonial français. On voit effectivement Erdogan, mais tout à fait ouvertement, s'en donner à cœur joie là-dessus. Avoir des médias d'État qui relaient ce discours à l'envi un peu partout en Afrique. Et parallèlement, effectivement, on voit qu'il joue la carte de l'Empire ottoman. Une vision... assez idéalisé de cet empire et qui fait complètement l'impasse sur effectivement les aspects peut-être plus contestables de cet empire ottoman.
Alors, sur le temps présent, est-ce que cette coopération telle qu'elle se déploie est vraiment plus égalitaire, plus respectueuse que ce qui a pu être entrepris par d'autres partenaires ou dans le passé ? Dans les faits, est-ce que le Sénégal, par exemple, s'y retrouve lui aussi dans les partenariats politiques, commerciaux ?
Sur l'aspect purement économique, il y a une envie, en tout cas, de la part du Sénégal de développer enfin son industrie et de compter beaucoup, de se tourner beaucoup vers la Turquie pour ça, en tout cas espérer que la Turquie, qui a une industrie, qui a un savoir-faire, eh bien, puisse transmettre ses compétences au Sénégal. Pour le moment, on ne voit pas encore peut-être cette usine de meubles, mais il n'y a pas non plus énormément d'exemples en tête. Et si on regarde simplement les chiffres, évidemment, la balance commerciale, elle est clairement déficitaire pour le Sénégal, qui importe massivement, et c'est ce qu'on voit également, des produits turcs de tout type, et qui, en échange, n'a pas grand-chose à exporter.
Un autre aspect de ce partenariat, c'est la dimension culturelle, universitaire aussi. Les écoles turques sont présentes depuis très longtemps dans différents pays africains. Alors avant, c'était le réseau des écoles Goulen, du nom de Fethullah Goulen, le prédicateur qui était devenu la bête noire du président Erdogan, qui a été accusé du coup d'État de 2016. Et donc justement, on voit comment Erdogan a patiemment démanteler ce grand réseau des écoles. Comment aujourd'hui la mue est-elle en train de se faire entre cet ancien réseau et un nouveau réseau d'écoles, notamment les écoles Maarif, qui sont, elles, liées à l'actuel pouvoir turc ?
Alors, sur l'exemple du Sénégal, typiquement, toutes les écoles Gulen donc, ont fermé sous la pression d'Erdogan. Il faut peut-être rappeler que ce sont les pionniers, ce sont dès les années 90 les partisans de Fethullah Gulen qui étaient des hommes d'affaires sont allés en Afrique, ont créé des entreprises, ont fait des affaires et ont financé la création d'écoles d'élite très très appréciées parce que notamment les ministres des pays africains, et en tout cas au Sénégal, envoyaient leurs enfants dans ces écoles. Ils étaient très très satisfaits. Et après donc le coup d'État la tentative de coup d'État de juillet 2016 qui a été attribuée aux partisans de Fethullah Gulen, ils ont été considérés en Turquie comme des terroristes et la traque ou la purge qu'il y a pu avoir en Turquie, c'était répandu également en Afrique. C'est ce que j'ai pu montrer dans cette enquête. Et Erdogan, typiquement après la tentative de coup d'État, a fait une tournée africaine en exigeant, en mettant la pression sur les gouvernements pour qu'ils ferment ces écoles. Et aujourd'hui, au Sénégal, c'est le cas, comme beaucoup de pays africains, comme la plupart. Les écoles Gulen sont fermées et elles ont été remplacées en partie. C'est-à-dire qu'elles ont moins d'élèves, elles sont moins nombreuses, mais effectivement, maintenant, ce sont des écoles qui sont dirigées directement par Ankara au Sénégal et dans d'autres pays africains.
Et vous montrez à quel point ça a été le fruit d'une pression politique, presque d'un acharnement du président Erdogan sur ces écoles, notamment en Éthiopie, puisque l'Éthiopie ne voulait pas fermer ces écoles Gulen. Et le président Erdogan a mis dans la balance l'accès aux drones Bayraktar, qui sont aujourd'hui très prisés sur le marché militaire. Et vous le montrez à travers des images d'archives, ça a fonctionné.
Oui, alors c'est vraiment une concordance de calendrier, pour le coup, qui marche parfaitement, enfin qui montre parfaitement en Éthiopie comment ce pays a rechigné pendant longtemps à fermer les écoles Gulen, et au moment finalement il s'est retrouvé dans une situation très critique au Tigré, avec une guerre sanglante au Tigré, il avait besoin de drones à ce moment-là, et quelques jours, enfin une semaine après l'ouverture des écoles Maarif, le transfert donc des écoles Gulen aux écoles Maarif, le Premier ministre est invité à Ankara. Le Premier ministre éthiopien est invité à Ankara. Il signe un accord d'armement et deux mois plus tard, on voit la présence effectivement de drones turcs qui ont joué un rôle essentiel dans le conflit au Tigré. On les voit donc à l'œuvre en Éthiopie. Ce qu'on peut appeler la diplomatie du drone, hein, en l'occurrence.
Les dirigeants de l'entreprise Bayraktar que vous arrivez à interviewer rapidement à Istanbul, au moment d'un grand salon sur l'armement, vous servent le discours officiel. Ces drones sont là pour assurer la sécurité, lutter contre les groupes terroristes. En un mot, servir la paix, si on les entend.
Sauver
bien.
Des vies.
Sauver des vies. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui actuellement des endroits, des conflits dans lesquels sont utilisés les drones turcs ?
En Afrique, les drones turcs. Enfin, alors il y a eu un rapport qui recense tous les cas documentés, effectivement. Je parle uniquement des victimes civiles, mais on sait qu'il y a une quinzaine de pays qui utilisent les drones les drones Baykar en Afrique, qui sont utilisés notamment dans les conflits au Sahel, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, y compris au Niger. Le Sénégal aussi a fait l'acquisition de ces drones. Enfin, voilà, il y a une bonne quinzaine de pays qui les ont. Et pour le coup, ce que j'ai pu montrer, c'est qu'il y a des cas documentés donc de victimes civiles de ces drones qui ont lieu dans plusieurs pays africains, et en gros un millier de victimes civiles ont été causées par des drones, dont une bonne part par ces drones turcs, et la moitié des cas sont en Éthiopie.
Et puis il y a aussi des questions qui se posent sur des sociétés de sécurité privées qui opéreraient dans certains pays, notamment au Mali. Alors j'emploie le conditionnel parce que vous le dites, on n'a pas de preuves formelles de la présence de ces sociétés de sécurité privées. Mais vous avez quand même une source au Mali qui vous atteste qu'ils seraient présents. Qu'est-ce qu'on sait de l'action et des missions qui leur sont dévolues au Mali ?
Alors vous avez raison de souligner que ça date, en l'occurrence, cette société militaire privée ni catégoriquement être présent au Mali ni d'être présent dans les pays en conflit. Ils se présentent plus comme étant une société de formation dans des pays musulmans en particulier, parce que selon eux, ce sont des pays qui sont opprimés par l'Occident, qu'il faut protéger. Et en ce qui concerne ma source au Mali, c'est un ancien conseiller du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta qui aujourd'hui est en exil, et qui affirme que à peu près 200 hommes de Sadat assuraient aujourd'hui la protection du chef de la junte Assimi Goïta à Bamako.
Dernier petit mot, Karina Chabour, aussi pour parler du rêve turc qui anime beaucoup de Sénégalais et autres en Turquie aujourd'hui. Il y a une immigration qui est notamment favorisée par ces bourses d'échange, ces accords universitaires, mais les conditions d'accueil se dégradent ces dernières années. Pourquoi ?
Oui, absolument. Alors, il y a à la fois pour les étudiants et à la fois pour des, simplement des Sénégalais ou des Africains qui viennent tenter leur chance dans le commerce ou autre, hein, à Istanbul notamment. Et depuis, on va dire, 2021, les conditions se sont durcies pour leur titre de séjour, notamment le renouvellement de leur titre de séjour. Alors, la durée maintenant n'est plus de 2 ans. Après, ça a été 1 an. Maintenant, c'est 6 mois. Il y a des conditions. Il faut avoir 2 500 € sur son compte bancaire, attesté d'un permis de travail. Et effectivement, ça met en difficulté tous ces Sénégalais, tous ces Africains qui travaillent là-bas et qui aujourd'hui ont tout simplement peur de se faire arrêter, de se faire expulser au moment où ils vont travailler.
Merci beaucoup Karina Chabour. Votre reportage « Le drone et le Coran, enquête sur l'influence turque en Afrique » sera diffusé demain samedi 17 janvier sur France 24 à 22h10, mais il est d'ores et déjà en ligne sur le site de France 24 à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu dans le Retour de terrain.
Merci.
Je te l'avais dit, chantait l'artiste turc Tuğçe Çenul en 2019. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission Actu du vendredi. C'est l'heure de la table ronde avec aujourd'hui cette question. Les Européens peuvent-ils défendre l'Ukraine sans les États-Unis ?
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
L'ensemble des pays de la coalition de volontaires et tous ceux qui sont là, qui étaient présents aujourd'hui à Paris, après la très bonne coordination que nous avions eue tous ensemble en fin d'année dernière à Berlin, partagent tous la même volonté, la paix. La paix en Ukraine, la paix en Europe. Mais nous voulons tous que cette paix soit juste, qu'elle soit durable, qu'elle soit solide. Et nous sommes tous lucides, les paix qui ont été signées ces 15 dernières années par la Russie ont toutes donné lieu à des violations par la suite. En Moldavie, en Géorgie, en Ukraine. Et donc, fort de cette expérience, nous voulons que cette paix, elle ait ses garanties, instruite par l'expérience des Européens ces 15 dernières années. C'est pourquoi la déclaration de Paris permet d'acter ces garanties de sécurité légitimes et pour la première fois, acte de cette convergence entre les membres de la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique.
Ils auraient eu tort de ne pas s'en réjouir. En ces temps où les intimidations et le recours à la force dominent les relations internationales, un accord semble enfin avoir été trouvé entre l'Europe et les États-Unis sur leur soutien à l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron s'est affiché confiant sur l'avancée de ce qu'on appelle les garanties de sécurité réclamées par l'Ukraine, lesquelles prendraient donc la forme d'une force multilatérale qui se déploierait après un cessez-le-feu et qui serait soutenue par les États-Unis en cas de nouvelle attaque russe. Mais cela fait encore beaucoup de conditionnels, d'autant que l'allié états-unien menace en parallèle de s'emparer du Groenland, un territoire sous contrôle du Danemark, membre de l'OTAN. Alors que valent ces promesses et ces accords dans le contexte actuel ? Les Européens peuvent-ils continuer à soutenir l'Ukraine sans l'allié états-unien ? On en discute avec nos invités. David Cadier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, enseignant également à Sciences Po Paris et au Collège d'Europe, et avec nous à distance, Joseph Henrotin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également, vous êtes directeur de recherche au CAPRI, le Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux, et rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité Internationale. Et c'est une émission co-animée avec Marc Semo, comme chaque vendredi. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et on commence avec vous.
Oui, merci Mélanie. Alors, ce qui se joue dans le Donbass, entré dans sa quatrième année de guerre de haute intensité, c'est le futur tracé de la frontière orientale de l'Union européenne. L'Ukraine a commencé ses négociations d'adhésion et sera membre à part entière de la famille, même si cela pourra prendre plusieurs années. Donc aider l'Ukraine, c'est nous aider nous-mêmes. Dans ses vœux aux armées, qu'on passait tout à l'heure, le chef de l'État a rappelé hier que l'histoire ne pardonne pas les faiblesses et les impréparations. Alors il évoquait la défense européenne, mais aussi l'Ukraine, d'autant que c'est l'Europe qui désormais fournit financièrement l'essentiel du soutien, y compris pour l'armement. À l'aune des budgets des États membres, cela signifie à peine quelques euros par tête et par an pour chacun des quelques 450 millions de citoyens de l'Union. Les aides données par l'Europe depuis 2022 ont été insuffisantes et arrivées trop tard, afin de permettre à Kiev de renverser le rapport de force. Donc, il y a un an, Emmanuel Macron avait évoqué la constitution, aux côtés des Britanniques et des Allemands, la création d'une force militaire de réassurance comme garantie de sécurité à déployer sur le sol ukrainien. Cela semblait utopique. Cette coalition des volontaires est devenue réalité avec 34 pays membres et un état-major commun au Mont Valérien. Les Américains se sont même finalement engagés à la soutenir, condition sine qua non pour l'engagement de nombreux pays de l'Union. Elle reste néanmoins virtuelle puisque elle dépend d'un accord de cessez-le-feu que refuse Poutine. Les choses, néanmoins, bougent, même s'il y a toujours un fossé entre les mots et les choses. Les budgets cumulés des Européens en matière de défense, s'il y ajoute aussi le Royaume-Uni, pèsent pour près de 500 milliards d'euros, la moitié du budget américain de défense, mais c'est beaucoup plus que le budget de défense de la Chine et, bien sûr, de la Russie. Alors, ce qui manque, en réalité, c'est la volonté commune. La plupart des États membres se sont depuis des décennies habitués à dépendre de la protection américaine. Donald Trump a le mérite d'obliger les Européens à se confronter à la réalité d'un monde où le droit de la force a pris le pas sur la force du droit. La résistance de l'Ukraine nous oblige. Elle nous achète du temps. C'est aussi pour cela que notre soutien à Kiev est essentiel.
Merci beaucoup, Marc Semo. Alors, David Cadier, cette force militaire de réassurance, c'est pas un projet nouveau. On en parle depuis plusieurs mois. Au vu de ce qui s'est joué là ces derniers jours à Paris, est-ce qu'on en sait plus sur la forme concrète qu'elle pourrait prendre en cas, encore une fois, de cessez-le-feu ?
On en sait un petit peu plus, même si beaucoup de ces éléments sont protégés par le secret et sont discutés entre Européens, effectivement, au sein du centre de planification militaire qui a été créé spécifiquement pour cette force, près de Paris.
Et en termes de quand je disais choses très concrètes, c'est-à-dire que le président Macron a dit elle se tiendra loin de la ligne de front, ce ne sera pas une force d'interposition. Alors, il y a beaucoup de définitions par la négative, on sait ce qu'elle ne sera pas. Mais voilà, en termes de mission, en termes aussi de bannière, de drapeau, d'identité des soldats qui seraient envoyés, là, sur ces points-là, il y a eu des précisions.
Absolument. Effectivement, alors, on appelle cette force soit force de réassurance, soit force de dissuasion. Réassurance de l'Ukraine. Un des rôles assez fondamentaux, en fait, de cette force, c'est dans un cadre plus large de soutenir l'armée ukrainienne, qui est vue comme la première ligne de défense de l'Europe entière, effectivement. Donc, il y a un effort européen en matière d'armement de l'armée ukrainienne, d'entraînement, et beaucoup ont soutenu l'idée d'amener cet entraînement des forces ukrainiennes directement en Ukraine. Mais cela implique en fait une présence militaire européenne en Ukraine. Donc, force de réassurance des forces ukrainiennes, notamment puisqu'après un cessez-le-feu, il y a un risque que l'armée ukrainienne se délite un petit peu, soit moins aussi mobilisée qu'elle ne l'est lorsqu'il y a un conflit en cours. Et c'est l'idée d'avoir des déploiements européens effectivement à l'arrière, loin de la ligne de front. Le rôle de ces forces ne sera pas d'être en première ligne en cas d'un nouveau conflit. Mais aussi, on parle d'une force de dissuasion. L'idée de départ de cette force, c'est quand même d'empêcher une nouvelle attaque russe, de signifier à la Russie que le temps ne joue pas en sa faveur, de signifier que les Européens restent engagés pour l'Ukraine, mais surtout en fait d'induire ce qu'on appelle un élément d'incertitude stratégique. C'est-à-dire que avant d'attaquer à nouveau l'Ukraine, les Russes se diront, si nous attaquons l'Ukraine alors qu'il y a des soldats européens présents, nous n'attaquerons pas que l'Ukraine. Quelle sera la réaction des Européens? Et donc, c'est un petit peu ça la logique de cette force. Les effectifs dans la presse, après la réunion, certains éléments ont fuité. Pour donner un ordre d'idée, il ne s'agira pas de 1000 ni de 100 000 soldats, mais ce qui a été évoqué, c'est plutôt entre 15 000 et 20 000. Si la coalition des volontaires réunit 34 pays, tous ne sont pas prêts à contribuer des forces sur le terrain. Et c'est justement intéressant de voir quels pays sont prêts et pour quelles raisons.
On va y venir. Joseph Enrotin, la présence de soldats européens sur le sol ukrainien, est-ce que, selon vous, cela peut vraiment dissuader la Russie de mener de nouvelles attaques à l'avenir ?
Alors, tout dépendra évidemment des règles d'engagement, c'est-à-dire de la manière dont on va engager les forces si jamais les Russes décident de repasser à l'attaque et d'engager une troisième guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que si ces forces restent effectivement à l'arrière, ne montent pas au front, si vous voulez, pour faire de l'appui effectif des Ukrainiens, ou ne montent pas sur les frontières typiquement de la Biélorussie, etc., pour permettre d'alléger la charge, on va dire, d'alléger la dispersion du dispositif ukrainien, et finalement, ça ne servira pas à grand-chose. Par contre, si il s'agit effectivement d'impliquer, si vous voulez, le fait que des soldats russes tirent sur des soldats de pays européens. Dans ce cas-là, bah, effectivement, il y a un élément d'incertitude qui est posé, c'est-à-dire qu'on force à ce moment-là la Russie, si vous voulez, à passer un palier. Il ne s'agit plus uniquement d'attaquer des soldats ukrainiens, hein, ce qu'elle fait depuis 2014. Mais il s'agit à ce moment-là de s'en prendre en fait à des soldats européens. Alors évidemment, tout ça dépend, et c'est toute la question effectivement de l'incertitude. Tout ça dépend des calculs stratégiques des uns et des autres. Tout dépend effectivement des missions qui seront affectées. On peut très bien imaginer que derrière l'emploi de 15 à 20 000 personnes. On parle de l'équivalent de brigades. Évidemment, ça ne sert pas, suivant la doctrine OTAN en matière de défense, ça ne permettrait de tenir que quelques dizaines de kilomètres. Par contre, il y a un certain nombre de spécialités potentielles. Je pense à la défense aérienne, qui permettrait à la fois de rester à l'arrière et en même temps d'engager des éléments russes, bah, typiquement des missiles de croisière, des choses pareilles. Donc en fait, il y a une certaine liberté de manœuvre derrière ces 15 à 20 000 hommes. Alors après, il faut voir exactement ce qu'il y aura dans cette force, quelles seront les missions, quelles sont les règles d'engagement.
Marc Semo.
Oui, alors les Russes refusent totalement l'idée d'un déploiement européen en Ukraine. Ils ne veulent pas de l'OTAN aux portes de la Russie, ce n'est pas pour avoir l'OTAN sur le sol ukrainien. Et donc c'est même une raison de plus pour les Russes de refuser un cessez-le-feu. Si cette force est installée, on peut imaginer qu'elle sera testée par les Russes. Alors, se pose le problème de à quel niveau se prend la décision du type de réponse que l'on fait à ça. Qui décide ? Quel est l'état-major de cette force ? Quelle est l'instance qui décidera de répondre ou non au feu ? Et puis, question subsidiaire, est-ce que ça ne vaut pas la peine, comme le disait Elie Tenenbaum de l'IFRI dans une tribune au Monde, de déployer cette force avant un cessez-le-feu pour forcer un cessez-le-feu, parce que sans attendre le cessez-le-feu, elle risque de rester pour très très longtemps, voire pour toujours, virtuelle.
David Caillé.
Alors peut-être qu'en commençant sur le deuxième point, ce que la déclaration de Paris du 6 janvier a révélé néanmoins, c'est que les pays européens ne sont pas prêts à déployer des soldats alors que la guerre est en cours. C'est pas une option qui est envisagée pour l'instant. Ensuite, sur le qui décide, effectivement, c'est une question assez fondamentale. Il y a beaucoup de conditionnels dans le déploiement de cette force, puisque sera déployée après un cessez-le-feu. Nous en sommes loin pour l'instant. Ensuite, un cessez-le-feu sera négocié avec l'agresseur, la Russie, qui effectivement a toujours fait d'une de ses lignes rouges le déploiement de soldats européens ou de l'OTAN. Et donc, il est possible que la Russie fasse comme condition d'un cessez-le-feu le non-déploiement de ces soldats. Mais néanmoins, en fait, cette force est importante au-delà de l'Ukraine, puisqu'il s'agit pour les Européens, pour la première fois, de chercher à faire davantage pour leur propre sécurité, sans un leadership américain. C'est vraiment la question qui est posée. Est-ce que les Européens peuvent faire plus seuls? Est-ce que la force de réassurance peut être en fait un premier pilier la première brique d'un pilier européen de l'OTAN, la première pierre d'une autonomie stratégique européenne, et qui aura pour tâche fondamentale de dissuader la Russie? Et j'en viens à votre question sur la dissuasion, qui est effectivement fondamentale, puisque la dissuasion repose sur la crédibilité. La crédibilité, c'est à la fois des capacités, mais aussi une volonté politique. Et donc, la Russie sera dissuadée si elle est persuadée que les Européens seront prêts à se battre pour l'Ukraine. Et d'une certaine façon, il y a eu certaines tergiversations de certains pays européens à ne pas vouloir envoyer des soldats, à ne pas déployer de soldats, qui ne communiquent pas cette volonté. Ou l'autre aspect, c'est que beaucoup de pays européens, en fait, ont conditionné leur participation à cette force à une garantie américaine, à une réponse en cas de test russe contre cette force. Et donc, si on considère nous-mêmes qu'on n'est pas prêt à dissuader la Russie seul, on ne communique pas ça à la Russie. C'est pour ça que le président de la République, hier, dans ses vœux aux armées, a eu cette phrase qui a dit « nous ne devons pas douter de nous-mêmes ». Puisque c'est en fait la première étape de la dissuasion. Dernier point, si vous me permettez, la question du test russe est assez fondamentale. Puisque quel est l'objectif de la Russie depuis 3 décennies? Enfoncer un coin entre les États-Unis et l'Europe et, en fait, rendre l'OTAN caduque. Et donc, si Moscou considère que, en testant cette force, il n'y aura pas de réaction américaine, ça pourrait amener à remettre en cause la validité de l'OTAN. Et donc, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure en termes de dissuasion, et qui repose encore une fois sur la crédibilité et la volonté politique en addition des capacités militaires.
Alors, il y a le troisième aspect de toute cette architecture de sécurité qui est en train de se mettre en place. C'est le rôle des États-Unis. Joseph Enrotin, en tout cas, la diplomatie européenne s'est félicitée, vantée d'avoir obtenu un soutien des États-Unis à cette force multilatérale. Toujours pareil, avec beaucoup de conditionnels. Si elle est mise en place, s'il y a un cessez-le-feu, si jamais il y a une nouvelle attaque russe. Cet accord de principe, est-ce que c'est un engagement? On peut poser la question, évidemment, dans le contexte actuel où on voit bien la versatilité du président, mais de toute son administration, et que les accords et les engagements aujourd'hui ne valent plus peut-être ce qu'ils valaient il y a 10 ans. Donc voilà, ce backup américain, que vaut-il?
Alors effectivement, c'est une excellente question, parce que de facto, on voit bien que les conditionnalités pour le déploiement de cette force, y compris dans les yeux de Washington, dans le regard que porte Washington sur le déploiement de cette force, font que finalement la probabilité de déploiement est relativement faible. Donc il y a un signal politique qui est là. Le fait de dire que l'on appuie effectivement une solution finalement de force de réassurance, etc., ben, ça renforce finalement le récit américain de la recherche d'une paix, etc., etc. Mais fondamentalement, dès que les conditions seraient amenées à changer, effectivement, la versatilité de l'actuelle administration pourrait tout à fait s'exprimer. Et donc, finalement, on s'aperçoit que la solution retenue, de ce point de vue-là, elle est quand même relativement fragile. Ceci dit, je pense que pour répondre d'une certaine manière à la question du soutien, alors c'est vrai qu'il y a la force en tant que telle et toutes les discussions qui tournent autour, mais au-delà de cela, il y a quand même une démonstration qui est assez à la fois discrète et remarquable de la part des Européens dans la reprise, si vous voulez, du rôle américain en termes de soutien financier, en termes de soutien de savoir-faire industriel et en termes de soutien, en termes d'achat d'armement, etc., au profit de l'Ukraine. En fait, les Européens ont livré plus de matériel à l'Ukraine que ne l'a fait les États-Unis. Les États-Unis ont fait beaucoup de promesses, via le système USAID notamment, hein, où ils commandent du matériel, si vous voulez, à fabriquer au profit de l'Ukraine, alors que les Européens, eux, ont effectivement livré du matériel. Et même chose au niveau du point de vue des assurances financières données à Kiev. qu'il s'agisse du paiement des salaires et de la stabilité de l'État, ou qu'il s'agisse en fait du financement des forces armées. Et ça, de ce point de vue-là, les Américains ne peuvent pas le nier, ils ne peuvent pas ne pas en tenir compte, au même titre que les Européens en sont sans doute un peu trop peu conscients, finalement. Donc le soutien, de ce point de vue-là, lui, il est plus efficace et il est plus effectif parce qu'il produit déjà des résultats sur les terrains, là où effectivement les discussions sur une force et sur l'envoi d'une force de réassurance, une force de dissuasion, tient à beaucoup de conditionnalités et tient effectivement à un facteur de crédibilité politique qui sera délicat à assurer, d'autant plus que cette coalition serait large.
Marc Sémo ?
Oui, alors justement, à ce sujet, vous évoquez la versatilité américaine, qui est réelle, mais il y a aussi une immense fragilité européenne. Quel est l'avenir de cette force, la crédibilité qu'elle peut avoir, avec la montée des partis populistes plus ou moins pro-russes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, pour ne parler que des grands pays, qui, s'ils arrivent au pouvoir, cette force, déjà, elle n'est pas encore née, mais elle sera totalement mort-née.
David Cadier.
Alors effectivement, il y a vraiment deux variables fondamentales, les États-Unis et les contextes politiques européens. Sur les États-Unis, je pense qu'il est utile aussi de différencier le type de soutien. C'est-à-dire, il semble assez acquis pour l'instant que les États-Unis sont prêts à fournir un soutien logistique à cette force. C'est-à-dire, par exemple, en termes de transport de troupes, en termes de renseignements, et ainsi de suite. Et ça, pour l'instant, la coalition de la déclaration de Paris semble le signifier. La deuxième question du backstop que vous évoquiez, c'est celle d'une assurance, d'une réponse américaine en cas de test russe. Je pense que c'est utile de différencier les deux. Il est quand même à noter que les envoyés américains à Paris lors de cette réunion étaient de très haut niveau. Ils avaient l'oreille du président Trump, et c'est ce qui compte, mais ils n'ont pas signé la déclaration. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se demander s'il n'y a pas en fait une volonté américaine d'obtenir un deal à tout prix, à tout craint, et une réalisation qu'il n'y aura pas de deal sans garantie de sécurité, puisque l'Ukraine se refusera à toute concession territoriale si elle court le risque de perdre dans quelques années ce qu'elle n'a pas donné à travers des négociations via une nouvelle attaque russe. Quant au contexte politique européen, il est assez intéressant de voir un peu la cartographie des pays qui sont prêts à contribuer à cette force ou pas. Une des variables qui explique les différences, par exemple sur le fait que le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Estonie, la Lituanie ont plutôt signifié leur disposition à contribuer à cette force. D'autres s'y sont refusés, pour l'instant, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne, évidemment la Hongrie et la Slovaquie. Les contextes politiques comptent, effectivement, mais... Il est quand même à noter que les partis populistes n'ont pas tous la même position sur la Russie. Giorgia Meloni...
En France, en Allemagne avec l'AFD et au Royaume-Uni avec Reform UK, les trois sont ouvertement pro-russes et contre ce type de déploiement de force.
Alors,
sont les trois pays. Je ne parlais que des trois pays piliers de la coalition des volontaires.
Oui, absolument. Mais alors, par exemple, l'Allemagne, pour l'instant, l'AFD n'est pas au pouvoir et elle se refuse tout autant à envoyer des soldats. Mais c'est plus pour des questions, en fait, aussi de culture stratégique, des questions d'architecture politique au sens de prise de décision, dans quelle mesure les parlements doivent être consultés, dans quelle mesure il y a dynamique de coalition aussi. Par exemple, en Italie, Giorgia Meloni, leader populiste, depuis qu'elle est au pouvoir... n'a pas du tout mené une politique pro-russe. Andrej Babiš, qui vient d'être réélu en République tchèque, pendant la campagne, a fait campagne sur un message plutôt anti-ukrainien et plutôt plus favorable à la Russie, sauf qu'il vient d'annoncer que finalement, l'initiative tchèque sur les munitions sera maintenue. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans le positionnement populiste, beaucoup de postures pour la politique intérieure, et les préférences en matière de politique étrangère ou la volonté vraiment de les mettre en œuvre ne sont pas forcément tout le temps réelles.
Excusez-moi, c'est en lien avec ce que vous dites, mais justement, au-delà d'accointance, de proximité politique, comme vous dites, pro-russe, ce que disent aussi certains États membres, c'est qu'ils craignent qu'un soutien accru à l'Ukraine ou la présence de troupes européennes sur le sol ukrainien enclenche une escalade avec la Russie. Est-ce que ce risque peut être totalement écarté ?
Non. Oui. Non, puisqu'il n'y a pas de dissuasion sans prise de risque. Et justement, en fait, le point de l'incertitude stratégique, c'est de signifier que les Européens sont prêts à prendre des risques pour l'Ukraine, parce qu'elle se trouve au cœur de leur sécurité. Et la question du risque est fondamentale, puisque si on a si la France a commencé à évoquer cette idée d'une force de rassurance, je dis la France puisque la première fois que ça a été mentionné, c'était en février 2024 lors d'une réunion à Paris où le président français a dit la possibilité de déploiement européen en Ukraine ne devrait pas être exclue. Encore une fois, essayer d'induire un peu d'incertitude. Tous les autres pays européens et même américains, et même les États-Unis à l'époque, ont froncé les sourcils et se sont désolidarisés de cette idée, à l'exception peut-être de la Lituanie, à cause de cette question du risque. Pourtant, on note que si la Russie n'hésite pas, évidemment, à sacrifier des vies en Ukraine, que ce soit les civils ukrainiens, que ce soit les soldats ukrainiens, que ce soit ses propres soldats, elle a quand même été assez prudente à ne pas se trouver en confrontation directe avec l'OTAN, à ne pas avoir attaqué, par exemple, les lignes d'approvisionnement de l'OTAN. Donc, ce risque va en fait dans les deux sens.
Joseph Henrotin, je vous laisse peut-être réagir à toutes ces questions.
Alors oui, effectivement. Alors, la Russie a maintenu justement une attitude assez ambivalente. Hein. On a vu qu'il y avait tout de même en mer Noire des actions par rapport à des drones, par rapport à des avions de patrouille maritime, etc., où la situation a été assez tendue. On avait parlé même à un moment donné d'un lancement de missiles RR contre un appareil britannique, qui s'en est sorti parce que le missile RR finalement n'a pas fonctionné correctement. Maintenant, au-delà de cela, effectivement, on est sur une question qui est d'abord et avant tout une question d'ordre politique. Et la manière dont finalement on va envisager le déploiement de cette force pose un risque politique, effectivement, et qui renvoie in fine à cette vieille dichotomie entre dans la manière dont on veut voir le développement de l'Union européenne, quelque part. Est-ce qu'on veut la voir d'une manière la plus large, la plus étendue possible? Et dans ce cas-là, effectivement, il faut que cette coalition elle soit la plus large, la plus étendue possible, mais avec des positions et une agentivité des acteurs qui est évidemment très, très large, hein, et avec des acteurs qui disent qu'ils veulent en être, mais de manière assez symbolique, d'autres qui vont faire du soutien à distance et qui ne risquent pas, quelque part, de payer le prix du sang si jamais les choses devaient dégénérer. Ou alors, est-ce qu'on part sur une optique, finalement, d'approfondissement et on ne reprend à ce moment-là que quelques acteurs qui sont effectivement prêts à payer le prix du sang si jamais les choses devaient être appelées à dégénérer. Et donc, de ce point de vue-là, il y a de vrais questionnements qui sont là, sachant que finalement, les Européens, ils sont pris dans un étau, c'est-à-dire que autant, et on l'a rappelé et très pertinemment, finalement, l'objectif russe depuis les années 2000, c'est de fragmenter l'OTAN. Voilà, où il y a vraiment une perception de l'OTAN et des États membres de l'OTAN comme des ennemis. Et de l'autre côté, il y a une perception du côté américain qui considère que finalement l'Union européenne est un problème et que finalement son démantèlement en tant que tel arrangerait plutôt Washington. Donc il y a une espèce de prise entre le marteau et l'enclume. Et donc finalement, cette force, elle se retrouve un petit peu à la fois, certes, en test de la cohésion otanienne, mais aussi en test de la cohésion européenne, dans un contexte international qui est complexe et dans un contexte également où la mise en œuvre concrète et effective de la force militaire dépend aussi du positionnement américain, notamment en termes de renseignement, etc., sur quelques systèmes un peu structurants, on va dire. Donc c'est pas nécessairement très simple, il y a une espèce de pari stratégique là derrière, mais quelque part on peut se poser la question d'un faux pari au sens où effectivement le simple fait d'obtenir un cessez-le-feu ce ne sera pas simple, ce ne sera pas évident. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait des tentatives en la matière, la Russie finissait par reculer. L'Ukraine était favorable, mais la Russie finissait par reculer. Et la dynamique même des opérations sur le terrain n'incite pas, si vous voulez, à avancer sur la voie du cessez-le-feu.
Je voudrais qu'on fasse aussi un point sur les négociations de paix entre tout simplement la Russie et l'Ukraine qui sont un processus en cours, c'est difficile à qualifier, mais en tout cas depuis plusieurs mois, avec quand même un enlisement manifeste. De début janvier, le président russe a rappelé que la guerre continuerait tant qu'il n'aurait pas atteint ses buts de guerre, à savoir les quatre oblasts de Donetsk, Luhansk, Zaporijja et Kherson. Ça veut dire qu'il n'y a pas, sur le plan, cette fois, des négociations de paix, il n'y a pas d'avancée à espérer tant que Vladimir Poutine n'aura pas obtenu ces territoires-là, David Cadier.
Ces territoires sont vraiment effectivement là, au cœur du problème et des négociations en ce moment. Alors, de toute façon, Vladimir Poutine ne va jamais signifier qu'il est prêt à revoir à la baisse ses demandes. C'est aussi une tactique de négociation. Et la guerre va continuer durant les négociations, puisque c'est un levier pour la Russie dans les négociations. On sait que, par exemple, dans les négociations sur la guerre de Corée, elles ont duré 2 ans. Et les combats continuaient en même temps. Néanmoins, en fait, ce qui s'est passé sur le front des négociations, c'est que il y a un acteur qui voulait un accord de cessez-le-feu, c'est les États-Unis, et qui a commencé en fait à essayer de tordre le bras des belligérants pour obtenir cet accord. Le bras ukrainien était plus facile à tordre pour Washington vu la dépendance ukrainienne à l'aide américaine, et donc c'est la réunion, enfin l'épisode du bureau ovale où Donald Trump a morigéné Volodymyr Zelensky, et ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a pas encore vraiment de négociation russo-ukrainienne. Et ça sera ça qui va mettre fin à la guerre. Nous avons une diplomatie de la navette, voire de la girouette de Washington, qui tantôt négocie un compromis avec les Russes. C'était le plan Witkov-Dimitriev qui a fuité avant Noël, qui était inacceptable pour les Ukrainiens et pour les Européens, qui donc a donné lieu à des contre-propositions. Et là, maintenant, nous avons une négociation américano-ukrainienne qui va probablement aboutir à quelque chose qui sera rejeté par la Russie. Donc en fait, la logique militaire de terrain va beaucoup compter dans l'évolution des positions respectives dans ces négociations. Et un accord de cessez-le-feu va effectivement buter sur cette question des parties du Donbass que la Russie ne contrôle pas encore, mais demande soit en négociation, soit compte obtenir par la force, puisque ça serait en fait une façon pour la Russie d'obtenir un but de guerre minimum. Mais évidemment, les Ukrainiens ne sont pas prêts à vendre à l'encan leur territoire, a fortiori cette partie du Donbass qui est assez importante stratégiquement, et ne sont surtout pas prêts à le faire sans garantie de sécurité en contrepartie.
Vous écoutez Culture Monde, comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace. Notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux !
Assis !
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Hector, un caricaturiste français qui a tenté d'imaginer l'arrivée sur place de la fameuse force multinationale proposée par les Européens à l'Ukraine. On y voit une petite troupe de 5 soldats, français, allemands, polonais et belges, inquiets et hésitants à passer la frontière. « Poussez pas », dit l'un. « Attendez, j'entends encore des coups de feu », dit l'autre. « Passez devant », leur ordonne le 6e soldat, un Américain, placé juste derrière eux. Un dessin à découvrir sur le fil du compte Blue Sky de Culture Monde sur la page internet de l'émission. Également une réaction peut-être à cette caricature de nos invités, Joseph Henrotin.
Alors oui, je vais me permettre d'être un peu méchant, c'est que c'est à la fois intéressant, mais à la fois à côté de la plaque. Alors intéressant parce qu'effectivement, on a des Américains qui font un peu du lead from behind. Hein, c'est très Trumpien. On se dit, ben voilà, finalement, on va pas s'engager avec les autres, on laisse faire les autres. Et puis, le cas échéant, on les laissera tomber. Mais en même temps, c'est à côté de la plaque parce qu'un soldat européen, d'une manière générale, si on lui dit d'y aller, hein, si son niveau politique lui dit d'y aller et non pas un autre soldat américain, il ira. Et en l'occurrence, il n'est pas nécessairement très pertinent d'avoir des Allemands et des Polonais, vu les, on va dire, les histoires, comment dirais-je, les histoires respectives de ces pays avec la Russie. Ce serait pas nécessairement très très pertinent de les avoir effectivement sur le terrain. Mais en sachant qu'il serait tout à fait capable de le faire. Il existe une brigade trinationale, il existe toujours une brigade trinationale entre la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine.
On imagine, Joseph.
Ça, effectivement.
Pardon, je vous ai coupé, je voulais juste rebondir sur votre critique. On imagine, Joseph Henrotin, que les réticences des soldats symbolisent les réticences des États.
Pas nécessairement, parce que je pense que si jamais... Alors, c'est de la politique fiction, bien évidemment. Mais imaginons qu'un accord soit conclu. Imaginons, enfin, ça fait beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de si dans cette histoire-là. Mais imaginons que les deux brigades sur le terrain soit éventuellement prise à partie par la Russie, etc. Il n'est pas du tout inimaginable d'avoir une intervention de sa propre initiative et coordonnée évidemment avec les autres Européens de la Pologne. Voilà, parce qu'elle s'équipe depuis des années en fonction de ce genre de scénario, et elle s'équipe bien et elle s'entraîne bien. Elle met les moyens effectivement par rapport à cela. L'Allemagne, c'est pas complètement inimaginable non plus. C'est pas pour rien que c'est un des seuls États à baser à demeure une brigade dans les États baltes. Et donc en fait, il faut pas non plus sous-estimer la volonté des États européens, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Au-delà effectivement de l'image qui en est faite par le soldat. Effectivement, c'est très Clausewitzien, pour le coup, on a la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a quand même des signaux qui viennent en particulier à l'Est, hein, plus à l'Est de l'Europe, hein, Pologne, Allemagne, etc., pays baltes, qui montrent qu'en fin de compte, ces États ont bien compris la situation stratégique dans laquelle nous sommes tous.
David.
Et qui, en l'occurrence... serait peut-être pas complètement opposé à une intervention si les circonstances l'exigeaient. La politique comme la stratégie militaire sont des antidéterminismes.
David Cadier.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La réticence à contribuer à cette force ne doit pas nécessairement être interprétée comme une pusillanimité stratégique, puisque, par exemple, deux pays se refusent à contribuer militairement, la Pologne, ça a été mentionné, et la Finlande. Et on ne peut pas accuser ni la Finlande ni la Pologne de ne pas être préparés en matière de défense. Un sondage récemment effectué en Finlande a souligné que 90% de la population finlandaise serait prête à se battre, même si l'issue était incertaine. La Finlande se refuse à contribuer à cette force, puisqu'elle considère que elle a un territoire, elle, à défendre, une frontière de plus de 1000 km avec la Russie. Elle s'attend à ce que la Russie accroisse sa présence militaire de l'autre côté de cette frontière après une issue à la guerre en Ukraine, et donc considère que chaque soldat comptera. La Pologne, il y a un petit peu de ça, c'est ce qu'on appelle en fait la culture stratégique, c'est-à-dire que le rapport à l'usage de la force est déterminé à la fois, façonné en tout cas, par l'histoire et par la géographie. La Pologne a plutôt une culture stratégique qui a toujours été orientée vers la défense de son territoire plutôt que des forces expéditionnaires envoyé à l'étranger. Il se trouve qu'il y a également un élément politique en Pologne, puisqu'il y a un parti populiste qui s'appelle Konfederacja, qui monte et qui a fait son miel politique sur un agenda presque anti-ukrainien, et donc ça contraint politiquement le gouvernement. Mais pour rebondir également sur les drapeaux sur les bras des différents soldats, à mon avis, il manque un drapeau quand même important, c'est celui du Royaume-Uni. Puisque sur cette force de réassurance, la dynamique franco-britannique est très importante. C'est les deux principales puissances militaires en Europe. Ce sont deux puissances qui, au contraire, elles ont une culture stratégique orientée vers la projection de force. Et surtout, ce sont deux puissances nucléaires, ce qui est clé pour les questions de dissuasion dont nous avons parlé tout à l'heure. Скай, моя.
Zerkalo, un titre sorti en 2025 du groupe ukrainien Onuka. Pour terminer cette émission, merci beaucoup à nos intervenants. David Cadier, je renvoie vers votre article « La mue géopolitique de l'Union européenne », c'est paru dans la revue française de sciences politiques. Joseph Enrotin, je renverrai vers le magazine DSI, dont vous êtes le rédacteur en chef défense et sécurité internationale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Merci Marc Semo. On vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera au micro avec Julie Gacon. Et d'ailleurs, Julie, vous la retrouvez dès lundi pour une nouvelle série de Culture Monde qui sera entièrement consacrée au Venezuela. Deux semaines après l'enlèvement du président Maduro par les forces de sécurité états-uniennes, eh bien, nous reviendrons sur l'histoire des relations entre Caracas et Washington, sur la question de l'avenir du chavisme, du pétrole, mais aussi de l'exode massif des Vénézuéliens depuis 10 ans. Et dans un instant, on retrouve les Midi de Culture de Marie Laborie.